Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h04 sur RMC, RMC Story. On est de retour dans Estelle Midi, toujours en compagnie de Rémi Barré, de Daniel Riolo, de Thierry Moreau et de Laurent Dandrieu. Avec vous également au 32-16 pour réagir à notre prochain débat. L'épidémie de flemme qui sévit depuis la crise sanitaire. On ne fait plus rien, moins de loisirs, moins de sport, moins de motivation. Est-ce qu'on a définitivement perdu le goût de l'effort? On vous attend bien sûr au 32-16 et sur l'application RMC. 13h50, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et la fin de l'argent liquide est proche. Oui. Stéphane nous racontera tout ça. À 14h, le ministère de l'économie qui souhaiterait une loi pour pouvoir collecter des infos sur les contribuables sur Facebook et sur Instagram. Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est choquant? 14h30, RMC s'engage pour vous et Johanna Chabas qui va tenter d'aider un village entier infesté de mouches à cause d'un élevage de poules. C'est une sombre affaire que va nous raconter Johanna. Et puis peut-être qu'on vous fera gagner la totale Coupe du Monde.
Peut-être, puisqu'à quelques jours de la Coupe du Monde, RMC vous offre le meilleur équipement high-tech. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot coffre par SMS au 732-16. Si vous êtes sélectionné, vous serez gagnant de toute façon, puisque vous repartirez avec le téléphone Samsung Galaxy M23 et le rétroprojecteur portable. Mais vous pouvez aussi choisir de remettre en jeu votre cadeau, vous y renoncer et vous ouvrez le coffre RMC avec à l'intérieur soit des AirPods, soit la Total Coupe du Monde, une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar. Alors, oserez-vous ouvrir le coffre RMC? Vous vous inscrivez en envoyant le mot coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC, Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite dans Estelle Midi à l'étude du jour. C'est celle de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès sur l'impact de la crise sur la vie des Français. Le constat est accablant. Depuis le Covid, on a la flemme. Moins de sport, moins de loisirs, moins de boulot, plus de glandouilles sur le canapé, de plats préparés et surtout de dépression, Rémi.
Oui, dans cette étude, 30% des Français se disent moins motivés qu'avant la crise sanitaire. Alors, moins motivés dans quoi? Dans leur vie quotidienne, pour tout. Travailler, faire le ménage, sortir, faire du sport. C'est surtout vrai pour les habitants de la région parisienne. 41% se disent moins motivés pour les plus jeunes, les 25-34 ans, et pour les sympathisants de la France insoumise. Bah oui, 44% sont moins motivés contre seulement 23% des électeurs d'Emmanuel Macron. Dans cette étude, 41% des personnes interrogées disent également se sentir plus fatiguées aujourd'hui après un effort physique qu'avant la crise Covid. Conséquence, une épidémie, tu en as parlé, de flemme. Près d'un Français sur deux, 45%, se dit fréquemment atteint d'une envie de rien, du goût du moindre effort, qui va jusqu'à les dissuader de sortir de chez eux, même pour aller au cinéma quand ils en ont les moyens, ou aller au restaurant, avec des conséquences sur la santé physique, la sédentarité, et tu l'as dit, sur la santé mentale. Il y a quelques semaines, la plateforme de rendez-vous médical Doctolib avait révélé que le nombre de recherches de consultations de psychologues avait augmenté de 102% sur l'ensemble de l'année 2021.
Et un autre chiffre assez alarmant, c'est la capacité pulmonaire des ados qui a diminué d'un quart fait depuis la crise Covid. Ils font plus de sport. Les ados, donc effectivement, c'est très très inquiétant.
Ils mettent beaucoup plus de temps pour faire plus de parcourir un 100 mètres que...
Ça a été étudié, ça?
Oui, ça a été étudié. Ils mettent plus de... C'est même pas 100 mètres, c'est 1000 mètres. Et c'est hallucinant. C'est-à-dire que les mômes, ils savent plus courir, ils font plus de sport, ils sont sur le canapé. Et c'est un vrai problème. Est-ce qu'on a définitivement perdu le goût de l'effort? Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Laurent Dandrieu?
C'est inquiétant, oui, parce que en fait, vous connaissez l'adage qui dit que le temps méprise ce qui se fait sans lui. Et c'est vrai aussi pour l'effort. On n'a rien de bien dans la vie si on n'accepte pas les contraintes qui vont avec et si on n'accepte pas les efforts. Et donc, je pense qu'en fait, c'est assez générationnel quand même. Je pense que c'est quand même plutôt les jeunes qui sont gagnés pour ça.
Thierry secoue la tête à côté de toi, Laurent.
Pardon ?
Il n'est pas d'accord. Thierry, il secoue la tête.
Il va le dire après. et qu'est-ce que je disais du coup?
J'ai perdu. C'est les jeunes pour la fin.
Non, c'est vrai qu'il y a quand même, c'est un peu, il y a l'impression que de plus en plus les gens vivent dans un espèce de monde de bisounours où ils espèrent que ils vont trouver un travail sans contrainte, un travail où il y aura que des choses positives, qui vont s'éclater dans la vie sans que ça leur coûte rien. Et en fait, non.
Il y a un rapport au travail qui a changé.
Même un grand plaisir.
Ils vont mettre des électrodes et comme ça ils vont faire du sport.
Une belle randonnée en montagne où vous voyez des choses sublimes parce que vous êtes monté devant un paysage sublime, ça demande des efforts. En fait, tout ce qu'il y a de grand et de beau dans la vie, ça demande des efforts.
Et pourquoi on n'y arrive plus?
Eh ben parce que
un changement
je pense
de mentalité
qu'il y a
globale.
Effectivement une perte du sens du réel, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont déconnectés de la réalité et que justement c'est pour ça que je pense qu'on va pas être, on n'a pas perdu définitivement le goût de l'effort, c'est-à-dire que ces gens-là vont être rattrapés par le réel, c'est typiquement les gens qui veulent pas accepter un job parce que il y a des contraintes, il faut de temps en temps bosser
local. C'est une minorité.
Il y a un moment, ils vont être rattrapés par le réel, ils seront obligés d'accepter ce qu'on leur propose.
Thierry Moron,
Thierry, pas d'accord.
Camille Dodeline.
Juste d'abord, ça se traduit comment la flemme chez vous ?
De temps en temps, ne rien faire.
Se poser, c'était pas comme ça avant.
Se poser dehors. Si, moi j'ai toujours été un peu comme ça. Oui, justement, d'accord. Par exemple, je
de
trouve
temps
qu'on,
en temps,
on le met dans,
repos,
le, même, on le, met dans le même sac plein de trucs. Le sport,
l'étude.
Par exemple. Moi, je suis désolé, je déteste le sport. Je n'ai jamais fait de sport de ma vie.
Oui, donc ça n'a rien à voir avec cette étude.
J'ai peut-être une capacité pulmonaire qui est plus basse que la vôtre ou que la tienne, Rémi.
J'espère bien.
Je m'en fous.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec cette étude.
Ça me fait suer de souffrir pour la crise sanitaire.
Ça n'a rien à voir.
Je discute souvent avec mes potes qui font du sport. Ça me fait suer de souffrir pour du sport.
Mais ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire.
Premièrement, deuxièmement, la crise sanitaire, elle a changé un peu le paradigme qui nous invite à regarder notre société. Et je pense qu'un certain nombre de jeunes aujourd'hui s'interrogent sur le sens du travail, les conditions de travail et le salaire que donne ce travail. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on était peut-être dans une situation où les gens ils étaient mal payés, peut-être qu'ils étaient de mauvaises conditions de travail, et surtout leur travail n'avait pas de sens.
Mais faut pas en faire une généralité.
Alors je dis bien, justement, je vais dans ton sens, et comme l'a dit très justement pendant que tu parlais, Estelle, je pense que c'est une ultra minorité, la majorité des gens que je connais moi autour de moi, et qu'on voit, les gens ils veulent bosser, ils veulent avoir du travail, ils veulent du salaire en fonction de leur travail.
Tu connais pas suffisamment de gens de gauche, parce que par exemple c'est intéressant quand même de.
Si j'en ai autour de moi.
C'est quand même intéressant. 4 sympathisants LFI ou Europe Écologie Les Verts sur 10, ils se disent peu.
C'est la volonté d'un changement de société qui reste rapide.
Il y a un troisième élément qui est qu'aujourd'hui nos sociétés et les GAFAM en particulier sont plutôt nous poussent dans le canapé. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire de
et
son
alors,
canapé
lutter, hein.
Ce qu'on peut faire, on peut faire de son canapé des milliers de choses qu'on ne pouvait pas faire. Et il fallait se lever le cul pour les faire. Et maintenant, on n'a plus besoin de le faire. Et ça accentue évidemment.
Mais c'est un drame.
On peut regarder des. Non, mais je dis pas que c'est bien. J'explique. J'essaie de donner un élément d'information.
Quand on voit
les GAFAM
de...
sont en partie responsables de ce phénomène.
Mais pas seulement les GAFAM. Quand on voit le nombre de pubs qui jouent sur ce ressort, on va vous apporter les trucs
c'est ça.
À domicile. Vous aurez rien à faire. Posez votre cul. On s'occupe de tout.
Il y a une ambiance. Non, mais t'es pas obligé d'écouter les pubs.
Bah non, mais
c'est très efficace. Le problème, c'est que c'est efficace.
Ça décrit un contexte, un environnement culturel quand même. Laurent a raison. Après, c'est vrai que les enquêtes montrent aussi que selon le camp politique dans lequel on se range, il y a une approche qui est un petit peu différente face à tout ça. La volonté de changement de société, la volonté de le rapport au travail. On sait très bien que c'est quelque chose qui est très ancré dans les idées de gauche, de vouloir changer la société. C'est le vieux rêve. Donc oui, c'est vrai qu'on note que ne pas en foutre une rame, toucher un petit salaire pour chiller tranquille. C'est un truc de jeune LFiste, oui, peut-être un petit peu. Ouais.
Oui, il n'y a pas que ça. Regardez
c'est un peu caricatural. On y est un peu. Genre, le patron ne doit pas avoir d'exigence, tu peux bosser un jour. En plus, ils ne se rendent pas compte que finalement, ce genre de rapport changé au travail, ça conduit à une approche très libérale, très, très flexible. Je bosse un jour, le lendemain, je ne bosse pas. Dès que j'ai bossé 2 mois, je me fous un petit coup au chômage et puis je reviens après.
Oui, mais vous êtes focalisé sur le travail, mais cette étude.
C'est la vie quotidienne.
Faire du sport, c'est un effort. Faire la cuisine, c'est un effort. Moi-même, quand je vous demandais comment la flemme vous touchait, je sais que je commandais quasiment pas de plats cuisinés chez moi avant le Covid. Et là, mais franchement, et je le fais. Et en vrai, des fois, j'ai honte. Je me dis,
mais
c'est quand même pas très dur.
Parce qu'il y a plus de services qui se sont développés autour de ça. L'explosion du service dont on te sert la bouffe à domicile, elle est quand même récente dans l'histoire.
J'ai la flemme de me faire à manger. Avant, ça n'arrivait jamais.
Précise bien que c'est dans la vie quotidienne, tous les actes de la vie quotidienne, c'est même sortir. Sortir, aller boire un café, à sortir, aller voir des amis, ou sortir, quand on donne les moyens, encore une fois, mais d'aller au ciné. Ouais, non,
il y a,
la flemme.
Faut pas tout mélanger. Le ciné, c'est par le service à domicile, les plateformes, des streamings, Netflix et compagnie.
Donc tu sors plus, tu fais plus l'effort.
Estelle, il faut pas, moi, je pense qu'il faut essayer de trouver des explications. Pour le ciné, Thierry en a parlé très souvent ici, et on vient de le refaire. Les plateformes, tout ça, on va résumer. La bouffe, attention Estelle, effectivement, le fait qu'il y ait un développement très important du service à domicile fait que tu peux te reposer là-dessus, que la flemme qui peut s'emparer de toi à 18h dans l'idée de faire à bouffer pour 19h, 20h, machin. Tu dis, ah, bah, j'ai une solution. Ouais, si tu n'avais pas trop cette solution, tu n'aurais pas enclenché ce processus de flemme. Tu te serais peut-être un peu bougé.
Mais je l'avais en 2020, cette solution, et je ne le faisais pas.
Non, mais attends, ça se met en route doucement. Peut-être que t'es pas toute jeune et que t'es en train de découvrir. Mais non, mais t'as pas 20 ans. Et peut-être
oui,
que t'es en train de te résoudre à des solutions de services à domicile qui ne sont pas apparues évidentes pour toi tout de suite. Même moi, parfois, je me dis, ah bah tiens, bon. Les enfants réclament souvent, tiens, on se fait livrer. Je dis, bah non, on va faire à bouffer, et puis c'est tout. Parce qu'en plus, c'est moins bon, donc j'ai envie d'éduquer au coup. Mais ouais, il faut lutter contre ça. Ouais. C'est une lutte contre la flemme, sur la beauté du faire, sur la beauté de l'effort, de la récompense de ce que tu as, de ce que tu as pris le temps de faire. C'est quelque chose qu'il faut également enseigner aux jeunes. C'est très important.
Ça, je suis d'accord.
Les habitue pas au service à domicile.
Moi, je comprends pas.
Une fois de temps en temps, mais c'est tout.
Mais avec les confinements,
j'ai mes enfants, je me force à faire manger, tu vois bien.
Très bien.
Avec les confinements, on avait plus de temps. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis mis à faire deux fois.
Le confinement, il a pas duré 4 ans non plus.
Et du coup, je me suis mis à faire deux fois plus de cuisine. Je me suis remis à faire la cuisine et j'ai découvert que c'était quand même bien meilleur que.
C'est formidable. Est-ce que tu fais encore?
Mais bien sûr, parce que du coup, j'ai pris le pli. Je me suis aperçu que finalement, c'était quand même un moyen de lutter contre la routine, contre la monotonie, contre les plats qui n'est livré qu'on pas de goût et que c'est vachement mieux.
Bah,
et que donc effectivement c'est une contrainte, mais c'est une contrainte qui est porteuse de plaisir qu'on ne trouve pas ailleurs.
Bien sûr.
Alors on a Guillaume qui nous appelle de Château-Thierry dans l'Aisne et qui est viticulteur. Alors lui doit avoir le goût de l'effort pour le coup parce que c'est quand même un métier difficile. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et Guillaume, alors je le disais, viticulteur, métier difficile, est-ce que vous avez gardé le goût de l'effort depuis la crise sanitaire?
Bah, pas spécialement.
Ah mince.
C'est ce que j'expliquais à votre collègue. C'est que bah, depuis le Covid, c'est vrai que niveau sport, un petit peu, même arrêté en fait, et même les sorties, et même au niveau du travail, moins.
Ah ouais, tu glandes vraiment, tu fous plus rien quoi.
même au niveau de la voix, hein, Guillaume, si je puis me permettre.
Il va falloir se bouger un peu quand même, Guillaume. Hein.
Vous n'êtes pas à bloc quoi.
Non, il y a tout qui s'accumule en fait d'un coup là. Et moi, comme je disais dans le message, je suis un peu dans la classe moyenne.
Ouais.
Et du coup, en tant que célibataire, sans enfant, je paye tout.
Ouais.
J'ai zéro aide. Tout s'est cumulé, en fait, d'un seul coup. Le sport, j'ai arrêté. Et comme on sait que voilà, la reprise, il y a toujours les douleurs qui vont avec. Donc,
c'est sûr.
J'ai un peu lâché le truc. Les sorties, on s'est habitué avec ma copine à faire autrement. Et du coup, on avait... je vais pas dire que c'est une corvée, mais presque des fois de se dire ah on va faire ça, programmer, et en fait on a pu pas la motivation,
vous êtes devenu flemmard en fait.
Ouais, en 3 ans de temps, flemmard, casanier, on va dire. Au niveau du travail, j'avais plein d'ambitions, de choses, je voulais faire tout un tas de trucs, et aujourd'hui je me contente de ma petite entreprise et de faire perdurer ce que j'ai déjà, mais pas moins d'ambition qu'avant. Ouais.
Et est-ce que vous l'expliquez avec par la crise sanitaire ou est-ce que c'était déjà un petit peu comme ça avant?
Non, ça a beaucoup joué parce que ça a freiné sur beaucoup de choses, la crise. Ouais. Il y avait plein d'élan qui était en cours, ça a tout stoppé, ça a un peu cassé les pattes. Coupé. Mais ça a eu un impact forcément, même psychologiquement. Et du coup, en fait, on est resté un peu plus à la maison et on se sent bien et voilà.
Et est-ce que vous avez envie de vous secouer un peu, Guillaume, ou vous dites, bah non, je suis bien comme ça, finalement?
Je reprenais un peu du poil de la bête, on va dire. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui nous tombe sur le nez en ce moment,
l'inflation.
Ça coûte une fortune, les taxes, les ci, les ça.
C'est ça.
Et après, on se dit, à quoi bon se bouger plus? Déjà, le peu qu'on a, on en profite pas tant que ça, parce que plus on en gagne et plus on en paye à droite, à gauche, et sans jamais avoir de retour. Et
oui, bon, il en reste un peu quand même.
Il en reste toujours un peu plus.
Oui, il en reste quand même un peu.
Oui, il en reste toujours un peu, mais on n'en profite pas autant qu'on voudrait.
Ah bah ça, Ça, c'est sûr.
Entre faire 42 heures ou 45 heures et en faire 60, bah, je me dis, je préfère rester chez moi que de faire 10 ou 12 heures de boulot à côté. Parce que j'en profiterai pas tant que ça, en fait.
Pour enfiler une partie à l'État. Merci, Guillaume, en tout cas. C'est intéressant, ce témoignage. Ouais, ça illustre parfaitement ce concept de grande flemme.
Bah, sauf qu'en fait, on parle flemme, mais moi, dans ce qu'il dit, j'entends déprime, en fait. Il parle de reprendre du poil de la tête.
Sur
quelqu'un
déprime,
qui se dit.
Oui, mais il a refait du sport. Oui, mais parce qu'il est déprimé aussi. Alors, ouais, il est déprimé aussi. Par tout ce qu'il y a autour.
Oui, c'est même pas.
C'est pas tellement de la flemme, c'est pas de la paresse, c'est que juste plus rien, il est dans un état d'esprit où plus rien lui semble valoir la peine. Moi, j'appelle ça plutôt
Oui, mais c'est le cas de beaucoup de gens, en fait. Exactement. Dans cette étude, c'est exactement ça qui est décrit, en fait.
Et c'est exactement ça. Tout est lié dans cette étude. Il y a un ennui, il y a une fatigue physique qui est décrite.
Mentale.
Et voilà, mentale, qui amène à la flemme, et la flemme amène.
Oui, mais au-delà de ça, je pense que tout ce qui se passe autour, l'inflation, la guerre, ça induit un repli sur soi qu'il faut pas que ça se transforme. Il ne faut pas évidemment que ça se transforme en déprime, mais évidemment, on a plutôt tendance à se replier sur soi, en se disant que si on va à l'extérieur, c'est compliqué, ça coûte cher, c'est loin, il y a la guerre. Enfin, voilà, il y a plein de choses.
Oui, il y a un repli, c'est ça.
Un repli sur soi.
C'est presque plus du repli
que
de la flemme.
Le phénomène qu'on appelait du cocooning il y a quelques années, c'est du repli sur soi. Il ne faut pas que ça soit du mauvais repli sur soi.
On est avec Mohamed qui nous appelle de Brest, dans le Finistère, en Bretagne, évidemment. Ça va, Mohamed?
Ça va très bien. Il fait super beau chez nous aujourd'hui.
J'allais vous poser la question. Mais en même temps, je connaissais déjà la réponse, Mohamed. Parce qu'il fait toujours beau en Bretagne.
On n'y croit pas.
Mais bien sûr que si.
La dépression, elle est venue de l'Ouest. Hein.
Là, cet été, je te jure.
Oui, un jour, oui, c'est arrivé.
Non, tout l'été.
Et alors, c'est pas une performance pour lui, Mohamed. 40 degrés.
Bah, à Brest aussi, c'est une performance.
Oui.
Bon, enfin, bref. Bon. Non, on s'égare.
Je t'invite à tenir du longe-côte avec moi si tu veux.
Voilà. Tu sais ce que c'est le longe-côte?
Le
longe-côte, c'est quand tu marches dans l'eau, donc froide, parce que c'est en Bretagne. Et toi, t'as de l'eau à mi-cuisse et ça te fait faire du sport. C'est très physique.
Ça, comme on dit, ça tonifie.
Exactement.
Voilà.
Mohamed, vous êtes un glandeur ou pas du tout?
Non, pas du tout, parce que ce matin, j'ai fait du longe-côte et cet après-midi, j'ai fait une petite randonnée.
Ah oui, donc on est pas sur la motivé
parce que c'est vrai que ce que vous dites reflète bien ce qui se passe actuellement. Hein. Cette baisse de motivation, cette apathie un peu qu'on retrouve avec tous les phénomènes qui nous arrivent, la guerre un peu partout, l'inflation. Donc les gens, ils ont envie de rester un petit peu chez eux, comme le Covid nous a bien scotché. Donc on avait tout à domicile, la bouffe à domicile qui était faite, les commandes, les réseaux sociaux, les Netflix et compagnie. Et moi, j'ai pas envie de tomber dans ce panneau-là, parce que je me dis qu'à 59 balais, si on en est là, dommage pas en EHPAD, quoi.
Ah oui, carrément.
Tu as raison, Mohamed, j'aime bien.
Et autour de vous, Mohamed, est-ce que les gens ont la même motivation, ou est-ce qu'au contraire, vous voyez des gens qui ont la flemme et qui se replient sur eux-mêmes?
Ah bah, Estelle, je vais vous dire une chose, là j'ai inventé un nouveau concept qui s'appelle la pipe.
Oui, alors je crois que ça existe déjà, mais ça dépend.
Dans le boulot, en général, je rencontre plein de gens qui sont dans ce concept-là. Pas d'initiative, donc pays, pas d'initiative, pas d'emmerde. Ils sont là-dedans.
Ah, mais j'aime beaucoup ce nouveau concept.
Ah bah, je veux dire PIPE, je crois.
Ouais, PIPE, c'est peut-être mieux, mais c'est ça. Pas d'initiative, pas d'emmerde, d'accord. Vous faites quoi dans la vie, Mohamed?
Je suis éducateur, moi. Alors qu'avant, je sentais bien la dynamique qu'il y avait dans plusieurs boulots, hein, parce que je rencontre des gens d'un peu partout. Et donc, on essayait de trouver des solutions pour les gamins qu'on a en charge. Mais là, c'est une baisse de régime chez plusieurs collègues. Là, je fais partie d'une asso en même temps. Donc, cette année, on fait des festivals, nous, au niveau de l'association. Ils avaient du mal à trouver des bénévoles.
Mais ça, c'est vrai. Dans tous les secteurs, ils ont du mal à trouver des bénévoles. Regardez, les JO 2024, il manque 50 000 bénévoles. Alors que normalement, avant, les gens se ruaient, pour être bénévole, pour avoir une tenue Jeux Olympiques et pour faire partie de l'événement.
Pour avoir les peluches fruges.
Non, ça je pense que ça peut démotiver. C'est démotivant.
Mais tu as raison, on l'a vu dans les crises de la crise de recrutement aussi dans le secteur associatif et notamment dans les clubs sportifs. Là, il y a de la part des encadrants et de la part de.
Déjà, on n'arrive pas à recruter pour les jobs payés. Alors,
non, mais il y a Fred qui nous dit salut l'équipe, salut Estelle. Moi, je vais souvent faire du football à côté de chez moi. Il n'y a plus d'enfants depuis un an.
Il est
devenu rare de faire un match parce qu'il n'y a pas assez de personnes. En tant que régisseur d'une piscine, je vois également beaucoup, beaucoup moins d'enfants nager depuis la fin de la pandémie.
Parce que les mômes, ils sont contents d'être à la maison, de faire du jeu vidéo, de regarder une série.
Oui, mais regarde, avant, pour réserver un cours de tennis,
ça sert à rien de dire l'avant.
C'était la croix et la bannière, et maintenant tu réserves avant, son problème. Mais si,
c'est ça. Malheureusement, je veux bien que tu alertes sur le fait que ce soit différent et que peut-être c'était mieux avant. Je suis souvent sur la même ligne que toi à ce sujet. Il se trouve que là, il y a un constat. Est-ce que tu peux...
Et donc, on laisse faire.
Non, mais le problème, c'est comment tu peux faire pour que ça change.
C'est ça.
Ça va être, c'est quoi? C'est une politique publique. C'est les parents avec les enfants. Ils doivent les remuer, leur dire arrête de rester toute la journée, joue, sors, va voir des potes et tout.
Il y a plus de sport à l'école, donc ça déjà ça passera peut-être.
C'est bien, c'est pas bien, c'est bien
que,
de bouger.
Que les gamins aient perdu
moi aussi,
un quart de leur capacité pulmonaire.
Et moi, quand tout un samedi après-midi, mon fils reste devant FIFA 23, ça me déprime.
Ah ben, et moi donc.
Ça me déprime et je sais souvent je sais pas comment le prendre.
Bah tu l'empêches.
Oui, le rôle des parents est important parce que aussi. Si les enfants voient leurs parents affalés sur le canapé, ça les aide pas à faire des trucs. Et si eux-mêmes font beaucoup de choses qui sont très, très sédentaires, ça va pas les aider. Donc les parents doivent effectivement dire, tu fais une heure de jeux vidéo, puis après tu vas dehors, etc.
Moi, oui, mais le problème, c'est, tu peux pas changer toutes les familles. Si tu lui dis, bon, vas-y, t'arrêtes, tu vas dehors. Bah, je vais faire quoi? Bah, tes potes, bah, ils font la même chose que moi, mais chez eux.
Ils jouent. Donc, on est en train de jouer en réseau.
Voilà. Donc, t'es emmerdé parce que, à part s'il descend tout seul, il va se retrouver tout seul dans la rue.
Tu vas te promener en forêt avec lui.
Exactement. Oui, enfin, ça dépend de ta vie.
Moi, je fais pas de balade en
Laurent Mandrieux, est-ce que finalement, cette grande flemme, ça ne risque pas d'impacter l'économie française? Parce que, notamment, l'économie des loisirs. Parce que si les gens ne sortent plus, si les gens ne veulent plus rien faire, il y a un moment où ça va pas être possible, quoi, vous voyez?
Oui, alors après, moi, je vais prendre l'exemple du cinéma que je connais bien. C'est-à-dire que quand vous proposez un grand spectacle qui donne envie aux gens, les gens, tout à coup, ils retrouvent l'envie. Hein. Il y a aussi ça, c'est que la programmation des cinémas, des théâtres, en ce moment, est d'une tristesse à pleurer. Donc, ça donne pas envie aux gens de sortir. Mais quand on leur montre Top Gun, quoi qu'on en pense par ailleurs, les gens, ils y vont.
Mais ça a fait combien de millions, Top Gun?
Ça a fait 6 millions, je crois.
Ouais, donc c'est ben un, voilà,
quand même, c'est quand même, c'est pas négligeable. Après, oui, ça, l'économie du spectacle, mais pas que. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit que on parle là tout à l'heure des métiers qui ont du sens. Les gens veulent faire des métiers qui ont du sens, mais on a du mal, y compris à recruter dans les métiers qui ont du sens. On n'arrive plus à recruter, alors c'est très particulier, les aides-soignants, mais je suis désolé, mais bosser dans la restauration, ça a du sens. Et il n'y a plus personne qui veut y aller. Et donc, il y a effectivement ça impacte déjà l'économie parce que les gens, ils veulent plus bouger.
Rémi, vous avez plein de messages.
Beaucoup de messages, et notamment ce message de Thomas sur Direct Studio. Si je bosse plus, je vais me faire imposer plus. Si je gagne de quoi m'acheter une belle voiture, on va me dégonfler les pneus. Si je voyage en avion, je pollue. Si je m'achète une résidence secondaire pour partir en vacances, je vais me faire taxer. Si je sors draguer dans un bar, je deviens un harceleur. Tout est devenu politique et anxiogène. Je reste à la maison avec une bonne bouteille de vin, avec modération.
Franchement, est-ce que c'est difficile de lui donner tort dans ce qu'il dit là?
Non, c'est un peu caricatural.
Oui, bien sûr.
Mais ça t'interpelle. Le message t'interpelle parce qu'il y a quelque chose quand même dans ce qu'il dit qui est un peu dans l'air du temps.
Oui, synthétise.
Cette air du temps que tout est condamné, que tout est condamnable, parce que de toute façon, si tu bouges, tu causes un problème à la planète. C'est difficile, sauf une balade en vélo. Peut-être il aurait dû signaler, mais si je fais une balade en vélo, tout va bien.
Mais je me ferai.
Et en fait, il y a
le rapport avec les autres.
C'est pas facile. On n'a pas pointé l'importance du catastrophisme, c'est-à-dire que dans les médias, en règle générale, à l'exception de cette admirable émission,
on nous
explique à propos de tout que la fin du monde est pour demain, va y avoir telle catastrophe, machin. Et du coup, après, on ne peut pas se plaindre si les gens sont angoissés, quoi.
Alors justement, on vous a fait un sondage sur le compte Twitter de l'émission. Vous avez été très nombreux à voter, donc en tout cas à bouger votre doigt sur votre téléphone, ce qui est déjà pas mal. Et on vous a posé la question, avons-nous perdu définitivement le goût de l'effort, Rémi?
C'est impressionnant, parce qu'il y a ceux qui pensent que les autres ont perdu le goût de l'effort, et il y a ceux aussi qui disent, oui, moi j'ai perdu le goût de l'effort, donc il y a tout ça.
Ça fait une grosse
et c'est un oui massif. 81% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux.
Ouais, donc c'est une très grosse majorité.
Ce qu'on ne sait pas, c'est dans ceux qui se sont prononcés, s'il y en a qui l'ont perdu.
Ouais, exactement.
Je pense que oui, vu les trucs de Jean-Jaurès, oui, ça c'est sûr. Ouais. Dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC, on va s'intéresser notamment aux 30 km/h. Est-ce que c'est vraiment utile de rouler à 30 km/h? Faut-il ouvrir des ponts aériens en France pour faire venir les médecins d'une région à une autre? Et puis on reparlera du drame.
Ponts aériens?
Ouais.
Ça va pas.
Ah tu verras. Ah si, je t'assure. Il y a le maire de Nevers. Ils veulent mettre un pont aérien entre Dijon et sa ville pour faire venir des médecins en avion.
En jet privé, non?
C'est pas si idiot ça, tu verras.
On te montrera l'extrait et tu réagiras. Ce sera dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h32, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure du zapping, le meilleur d'RMC, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on va commenter tous ces extraits avec Rémi Barré, Daniel Riolo, Thierry Moreau et Laurent Dandrieux. On va commencer avec un extrait des GG ce matin. Rouler à 30 km/h, est-ce vraiment bien utile alors que de nombreuses villes françaises ont adopté? Une commune des Yvelines vient de décider de faire marche arrière en repassant la majorité de ses axes routiers à 50 km/h au lieu de 30. Selon son maire, cela crée des comportements dangereux et accidentogènes ainsi que des situations d'énervement. Témoignage de Pierre, habitant des Yvelines, qui comprend très bien ce retour à 50 km/h.
Franchement, on est dans l'idéologie. Oui, pour l'écologie, mais il faut gérer les choses au cas par cas. On a l'impression qu'ils sont en train de dérouler un programme sans regarder les territoires, sans regarder les gens, sans regarder les besoins, sans regarder les possibilités. Rouler à 30 km/h, c'est première, seconde, troisième. D'accord ? C'est les vitesses où on consomme le plus, où on pollue le plus. Donc, déjà, ça n'a pas de sens. Ensuite, faire ça en ville. Les gens qui sont en ville, ils galèrent. Surtout, on n'est pas dans Paris, là. D'accord ? C'est-à-dire, c'est des gens qui ont besoin d'aller bosser, c'est des gens qui ont besoin de se déplacer. Alors, je dis pas qu'il faut rouler à tombeau ouvert partout, mais il y a des endroits où on peut rouler à 50, à 30, à 70, à 80.
C'est vraiment utile les 30 km/h, Thierry Moreau.
Je suis assez d'accord avec ce maire, pas le témoignage qu'on vient d'entendre, parce que sur la pollution c'est un autre sujet, mais sur ce maire qui dit que c'est accidentogène.
Ah, c'est pas un autre sujet parce que c'est fait pour ça. Bah oui.
À côté de chez moi, il y a une ville qui s'appelle Vert, un village qui s'appelle Vert, qui est traversé par une route importante, et rouler à 30, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te doublent si tu roules à 30, qui te klaxonnent, et donc si tu veux respecter le 30, alors il y a une solution. C'est-à-dire qu'au moment où on est devant l'école, un peu avant, un peu après, on peut rouler à 30, il n'y a pas de problème. Oui. Que tout le village soit à 30, c'est compliqué. C'est compliqué à appliquer.
C'est-à-dire que personne ne respecte les 30, c'est impossible.
C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à respecter le 30. Et donc, je roule à 40, parce que sinon, je me fais klaxonner, insulter, doubler. Et quand on se fait doubler dans un village, pour le coup, à 40 ou à 50, parce que le type, il met un coup d'accélérateur assez fort, c'est accidentogène. Donc, je pense qu'effectivement, c'est cas par cas. Cas par cas, pas de grande loi qui s'applique à tout le monde.
On est allé trop vite encore là-dessus, Laurent Andrieu.
Oui, je pense que, effectivement, on a prononcé le mot d'idéologie. Et de fait, quand vous roulez à Paris, vous constatez que personne ne la respecte, cette limitation à 30 km/h. Et donc, ça, on revient toujours sur la même problématique. C'est-à-dire qu'en fait, une réforme n'est bonne, justifiée et applicable que si elle correspond, si elle est acceptée, et elle n'est acceptée que si elle correspond à un comportement naturel. Or, c'est pas naturel de rouler à 30 sur la plupart des axes où on essaye de nous l'imposer. Donc, effectivement, ça suscite de l'énervement, ça suscite de l'agressivité, et on n'a pas besoin de ça.
Je vous sens dubitatif, Daniel.
Non, c'est que je me dis que ce combat contre une écologie qui ordonne, qui veut punir, parce que je pense que derrière ces limitations, c'est ça qui est poursuivi,
ouais.
et qui donne une mauvaise conscience. Je pense que ce combat, il va devenir de plus en plus important, et que oui, je suis d'accord avec Thierry, il faut plus regarder la vie des gens, le côté pratique, avoir un petit peu de bon sens, regarder dans telle et telle zone si ça apporte quelque chose ou si ça n'apporte pas quelque chose. Mais le problème, c'est quand tu fais de l'écologie avec de l'idéologie, tu ne vas pas regarder du cas par cas, tu ne vas pas faire de la dentelle, tu vas vouloir imposer à tout le monde. Et ça, je pense que les gens, petit à petit, risquent de se détourner.
C'est déjà le cas aux États-Unis. Les études montrent que justement l'activisme contraignant,
forcément, plutôt, ça fait que tu te détournes de la chose.
Désengage les gens plutôt.
Absolument.
De la lutte contre
c'est dangereux. C'est dangereux.
Et du coup,
d'accord.
Si t'es très énervé contre le 30 km/h, tu veux même pas le respecter en face d'une école, alors que tout le monde est d'accord qu'en face d'une école, pour le coup, c'est nécessaire.
Et comme tu as en face des gens qui te disent, on n'a plus le temps de discuter, on n'a plus le temps de faire du cas par cas, la situation est périlleuse, nous sommes en état d'urgence, le dialogue va devenir de plus en plus difficile. Et c'est à ça que je voulais en venir, c'est que je pense que c'est des choses, des objectifs qu'il faut poursuivre par le dialogue. Et là, de plus en plus, il va être mis à mal, ce dialogue-là.
Apolline Matin, ce matin, faut-il ouvrir des ponts aériens pour faire venir des médecins? C'est l'idée du maire de Nevers.
C'est le grand moment Thierry Moreau, ça.
Mais écoutez-moi, c'est l'idée du maire de Nevers. Il souhaite mettre en place une navette aérienne entre Nevers et Dijon afin de faire venir des médecins à la journée. Il s'en expliquait ce matin chez Apolline. Ça, c'est pas écolo.
Tout d'abord, on a un aéroport qui doit servir, que je préside et qu'on souhaite développer. Il fonctionnait. Il y a déjà eu une ligne Nevers-Dijon. Ensuite, nous sommes face à un défaut de maillage de territoire de la part des professions de santé pour diverses raisons. Nevers n'a jamais été rapproché de sa capitale régionale Dijon. On est toujours à 2h30, 3h en voiture, à 2h30 en train. Des trains en 2h07 ont été supprimés. Donc, il faut trouver une solution. Et moi, quand je rencontre des personnels soignants qui me disent qu'on veut bien donner un coup de main, il y en a déjà qui le font, mais ils prennent leur courage à demain, ils viennent passer parfois 2-3 jours, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc certains me disent, moi je veux bien venir une journée, renforcer des équipes, mais c'est hors de question que je me mette en danger. Il faut traverser le Morvan l'hiver, il y a du verglas, donc je veux bien venir, mais il faut que ça soit rapide et je veux rentrer chez moi le soir. Et ça peut
se faire. Ce serait une navette sur la journée.
Ce serait une navette sur la journée. Et ça serait une navette sur la journée.
Alors d'accord, donc nous on est culpabilisés à chaque fois qu'on ose
prendre un billet carbonés,
d'avion,
ça.
Et là il faudrait mettre des navettes pour faire Nevers-Dijon. Vous avez
écouté
le témoignage
de ce maire dans l'intégralité, et c'est pas idiot ce qu'il dit, pour plusieurs raisons, parce qu'on mettrait 25 minutes, donc un médecin pourrait venir, ça peut être une fois par semaine par exemple cette navette, pour permettre à un médecin de venir tenir une permanence dans ce là où il y a, c'est un aéroport qui existe, qui a été construit à l'époque de France.
Ça s'appelle un jet privé, et je vous rappelle que tout le monde est contre.
C'est pas un jet privé, non.
C'est pareil.
Ça ressemble.
Une liaison aérienne, c'est un hélicoptère, c'est quoi ?
Non, c'est un petit avion. Vous savez qu'il y a des petits avions qui existent.
En parapente.
Pour faire des navettes locales. Ça existe en France pour faire.
Donc vous allez affréter deux avions pour faire donc le matin et le soir.
Alors, je vous conseille pour aller sur le podcast et le replay de Apolline Matin. L'argumentation dans son intégralité de ce maire n'était pas si idiote que ça. Même si, effectivement, il y a un impact carbone. Mais on ne pourra jamais avoir de latitude zéro carbone partout, tout le temps. Il y a un moment, il faudra se rendre
à l'évidence. On ne peut pas te culpabiliser, toi, quand tu prends l'avion. Aujourd'hui, tu n'oses même plus dire que tu as pris l'avion. Tu as l'impression d'être un...
Il y a une différence. Horrible.
Pourquoi tu le prends encore?
Excusez-moi,
mon Dieu, Estelle.
Mais enfin, Estelle,
vous faites attention. Une différence. Mais attends,
je vous aime beaucoup, Estelle. Mais enfin, il y a une différence entre aller passer le week-end à Marrakech
Je ne vais pas passer le week-end à Marrakech.
Je parle pas de vous. Je dis si vous allez passer le week-end à Marrakech pour 50 balles et revenir après, ça, alors, c'est pas très écolo. Ouais, enfin, en revanche, permettre à un médecin de venir une fois par semaine.
Et si c'est dans le sud de la France et qu'elle fait marcher l'économie locale en allant dans les restos, tout ça, elle doit se sentir coupable aussi.
Mais quand vous allez à Marrakech, comme vous dites, ou n'importe où dans un avion, votre avion, il est plein. Votre avion, il est plein. Non, mais attendez, vous n'êtes pas tout seul. Parce que là, vous croyez que l'avion va être plein pour faire Nevers-Dijon. Enfin, excusez-moi, on adore les habitants de Nevers et de Dijon. Oui. Enfin, excusez-moi.
Il faut mettre des avions 4 places, des bimoteurs 4 places.
Et donc, devoir prendre l'avion, il y a peut-être d'autres solutions qui sont moins coûteuses et plus écolo. Pour ça, pour faire venir des médecins.
Ce qu'expliquait aussi le maire, c'est qu'on est en train aussi de travailler sur des petits avions avec des modes de propulsion qui sont beaucoup plus écolo. Dans les années à venir, ça sera un vrai sujet. C'est-à-dire des avions hydrogène, des avions.
Mais ça n'est pas
le vrai sujet.
Je suis tout à fait pour les rustines, mais
en grande partie d'accord avec lui.
Moi, je suis tout à fait pour les rustines face aux situations d'urgence. Oui, mais là, franchement, on arrive dans des rustines très des rustines en or massif, quoi. Ça devient un peu coûteux et un peu ridicule. Peut-être qu'on s'attaque à la racine du problème une fois pour toutes.
Non, mais autant payer un médecin plus cher pour qu'il vienne dans ta ville plutôt que d'aller affréter un avion deux fois par jour.
Autant payer au médecin jet privé.
Oui, c'est ça. Non, mais tu peux pas d'un
c'est
côté.
Pas un jet privé, une ligne aérienne qui existe et sur laquelle on permet à des médecins de venir le matin.
C'est pas Paris-Marseille.
Non, mais ça, c'est autre chose.
Non, mais si
ce qu'il a expliqué aussi, c'est que le réseau ferré local n'est pas bien fait et que on met 2h30 pour faire le train. Donc peut-être qu'il faut aussi s'attaquer
à ça. Mais pourquoi il n'est pas bien fait? Parce que, excusez-moi, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens non plus qui prennent cette ligne. C'est terrible, mais voilà, ça ne doit pas être la ligne de France la plus usitée.
Mais de toute façon, si cette ligne existe, je ne vois même pas pourquoi on débat. S'il a envie de payer un médecin pour lui payer un billet avion qu'il le fasse, il n'a pas besoin de notre autorisation.
Et ça coûtera moins cher de payer un billet d'avion à un médecin pour venir, plutôt que de lui donner une incitation, lui acheter un logement et de les payer plus cher.
Ça m'étonnerait que les médecins se bousculent au portillon, parce que je vous signale que quand même, avant de prendre l'avion, il y a des contrôles, etc., il faut arriver plus tôt, et que votre voyage, il ne fera pas 30 minutes en fait. Et qu'au final, il sera sur une heure et demie, parce que j'imagine que le cabinet médical n'est pas dans l'aéroport non plus. Donc de toute façon, autant prendre le train dans ces cas-là. J'ai raison. Okay. Daniel, un petit mot?
Pas forcément.
Non, c'est fait. Bon.
Ah, il y a vraiment un petit mot à dire là-dessus.
Non, mais ne dites rien.
À part rigoler et essayer de vous faire rire deux secondes, je vais avoir du mal à parler. Hein, donc on peut passer.
Ah, vous n'allez pas me faire rire. C'est dommage. Donc, on va pas beaucoup rigoler sur le sujet d'après, je vous préviens. Apolline Matin, ce matin, hier, le journal Le Monde révélait que les secours en mer français avaient failli lors du drame survenu l'année dernière dans la Manche. Un bateau pneumatique avec des migrants avait fait naufrage, causant la mort de 27 personnes, dont une fillette. Une non-assistance que dénonce ce matin Nicolas Posner de l'association Utopia 56.
Ça va à l'encontre des droits les plus fondamentaux, de venir au secours des personnes en détresse. Ça prouve une stigmatisation et une forme de xénophobie d'État à l'égard de ces personnes. Nous avions porté plainte pour non-assistance à la personne en danger et omission de porter secours. Et aujourd'hui, ces communications viennent prouver la réalité de ces faits-là. Ce que l'on espère, c'est que ça va pouvoir permettre d'élargir le périmètre des responsabilités étatiques et gouvernementales.
Voilà, ce qu'on apprend, c'est que les secours tardent parfois en fait à aller tout simplement sauver des migrants. Vous êtes très choqué par ça, Daniel Riolo?
Bon, au-delà de ce sujet-là, moi, ce que j'aimerais maintenant, à un moment, c'est que les gens qui s'expriment comme lui, là, dans la xénophobie d'État et les grands mots, comme ceux des ONG, vous connaissez la célèbre phrase marxiste qui était utilisée dans les réunions des trotskistes ou des gens d'extrême gauche, c'est « D'où parles-tu, camarade ?» À un moment, moi, j'aimerais que ces gens-là se dévoilent réellement et disent qu'ils sont. Bah, qui disent qui ils sont, est-ce qu'ils œuvrent à des fins politiques, est-ce qu'ils sont dans de l'idéologie, qu'est-ce qu'ils veulent, ou parce que le côté ONG humanitaire, je commence à avoir de sérieux doutes. Et j'aimerais être convaincu que ce ne sont que des actions humanitaires et que derrière, il n'y a pas de l'idéologie politique. Je commence à douter sérieusement de ce qu'ont dans la tête ces ONG. La personne qui parle, les propos qu'il emploie,
oui, enfin, si les secours tardent à aller saisir des migrants qui sont en train de se noyer.
Alors attendez, attendez, qu'on ne fasse pas de mauvaises interprétations et des fameux scoops Twitter pour mal comprendre le sujet. On n'est pas en train de parler de gens qui sont à l'agonie, en train de mourir, évidemment. Dans ces cas-là, il faut
aider. Si on parle de ça.
Bien sûr, et si on s'est mal comporté. Oui, mais le problème, c'est que si on parle de ça, on isole un problème. On isole un problème. Le problème, on sait bien qu'il est beaucoup plus vaste en Europe, sur les migrants,
enfin,
sur les
bateaux. Très factuel. Oui, non, mais là, c'est très factuel. Il y a des migrants en train de se noyer. Les Français renvoient la responsabilité aux Britanniques. Les Britanniques renvoient la responsabilité aux Français.
Absolument, Rémi.
Et c'est le drame.
Et
c'est le drame de cette région autour de Calais, etc. Des migrants.
Je sais.
C'est le drame. C'est-à-dire que
le problème, c'est que si on s'arrête,
je termine juste.
Je le sais.
Non, mais il y a une irresponsabilité de la part de deux États qui se renvoient chacun la balle.
Et s'il se renvoie la balle, c'est à cause de quoi s'il se renvoie la balle ?
C'est drame.
S'il se renvoie la balle, au-delà du problème factuel qui est dramatique, et est-ce que vous trouverez une personne sur Terre pour dire que factuellement, c'est pas un problème dramatique ? Bien sûr que oui. Sauf que si on sort deux secondes de l'émotion, si deux États se renvoient la balle de cette façon, c'est bien que le problème, il est politique et il est plus grand. Et qu'il faut s'interroger sur, évidemment, ça nous ramène à ce qui s'est passé la semaine dernière autour du bateau de migrants qui a accosté à Toulon. C'est un problème qui est bien plus important, qui est international, l'Europe doit se prononcer là-dessus, les États, on voit bien que selon le gouvernement qui est élu dans un pays, ça apporte des problèmes supplémentaires, et c'est pour ça que moi je dis à un moment qu'il faut voir à la source quel est le problème, pourquoi il y a ces bateaux, d'où partent-ils, qui les font partir, et que c'est là que je demande qui sont les gens qui organisent, pourquoi.
Justement Daniel,
très rapidement, Thierry,
tu dis c'est politique, donc ce monsieur qui est à la tête d'une ONG, il a une posture politique en disant qu'effectivement les secours français, qu'est-ce qui se passe, ils attendent que les migrants soient dans les eaux, ils retiennent les secours jusqu'à ce que les migrants soient dans les eaux anglaises pour ne pas avoir à intervenir. C'est une enquête en cours, elle n'est pas terminée, il faut attendre la totalité de l'enquête.
Je pense que ce que voulait dire Daniel, et j'abonde dans son sens, c'est que monsieur ne peut pas non plus s'exonérer de ses responsabilités, ce genre d'associations ne peuvent pas non plus tout mettre sur le dos de l'État, parce que pourquoi est-ce qu'il y a un manque d'intervention qui a parfois des conséquences tragiques comme on l'a vu là, c'est aussi parce qu'il y a un manque de moyens, et pourquoi il y a un manque de moyens, c'est parce qu'il y a de plus en plus de bateaux, parce qu'il y a ces associations-là, ces associations-là aussi entretiennent une dynamique qui fait qu'il y a de plus en plus de passeurs, de plus en plus de bateaux.
Allez, dans un instant, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Il nous parlera de la fin de l'argent liquide. Manifestement, c'est pour bientôt. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h50, vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment de parler conso avec Stéphane Pedrazzi.
RMC, Estelle Midi.
La minute conso.
Et Stéphane, on va parler d'une fin qui est peut-être proche, c'est celle de l'argent liquide. On paie en effet de plus en plus souvent par carte bancaire, notamment sans contact.
Oui, le sans contact, ça représente désormais 56% des paiements par carte, plus d'un sur deux. Près de 9 Français sur 10 l'utilisent régulièrement, même pour les tout petits montants. Ah ouais. J'ai envie de dire surtout pour les tout petits montants, pour acheter le pain à la machine à café, pour acheter un ticket de bus. C'est vraiment une révolution en matière de paiement, si bien qu'on se pose de nouveau la question de l'argent liquide. Pendant combien de temps est-ce qu'on va encore avoir des pièces, des billets ? En France, sachez que les paiements en espèces ont encore la majorité en termes de transactions. 59% des transactions selon la Banque Centrale Européenne. Donc ça reste le moyen de paiement qu'on utilise le plus souvent. En revanche, en valeur, ça diminue fortement. À peine 25% de nos dépenses sont aujourd'hui payées en liquide. Et ce montant continue de diminuer tous les ans.
Et c'est pour ça qu'on voit de moins en moins de distributeurs de billets dans la rue.
Alors déjà 5000 distributeurs de moins en France en l'espace de 3 ans. Alors ce que nous dit la Banque de France, c'est que c'est pas exactement ça. On maintient plus ou moins le nombre de distributeurs. En fait, les banques suppriment leurs distributeurs classiques, vous savez, ceux qui sont en vitrine des agences bancaires, et les remplacent par des distributeurs indépendants, ceux que vous trouvez chez les commerçants, qui généralement ne sont pas accessibles 24 heures sur 24 et en plus qui vous prennent une commission de malade quand vous y allez. Sachez en tout cas que ça va pas s'arranger du côté des banques puisque BNP, Société Générale et Crédit Mutuel vont mutualiser leurs distributeurs. Ça sera une marque commune et à la clé, évidemment dans les zones urbaines, là où il y a beaucoup de distributeurs, beaucoup de machines vont disparaître. On nous dit que c'est dans l'évolution naturelle des choses.
Bah, de toute façon, l'utilisation du cash est de plus en plus limitée.
Oui, alors déjà, les commerçants n'ont pas le droit de refuser un paiement en liquide, mais ils ont effectivement des restrictions.
C'est assez rare qu'ils refusent un paiement en liquide. Quand vous allez au marché, par exemple, j'ai jamais vu quelqu'un me dire « Oh non, payez-moi plutôt par carte ». C'est marrant. Hein.
Est-ce que tu es déjà allé payer un commerçant avec un sac de pièces?
Non, mais l'idée m'est venue déjà.
Alors, c'est interdit. 50 pièces de monnaie, c'est le maximum qu'un commerçant doit accepter. Au-delà, il peut refuser. Donc, la pub, vous connaissez la petite, la vieille dame qui va avec son camion de pièces au supermarché. Ça, c'est interdit. Vous pouvez juste payer avec plein de pièces au trésor public. C'est les seuls qui n'ont pas de limite.
Moi, ça va.
À condition aussi de ne pas dépasser la limite légale. Depuis 2015, la limite de paiement dans un magasin en liquide, c'est 1000 euros. C'était 3000 avant. Et entre particuliers, c'est 1500 euros.
Donc, c'est-à-dire que si je veux payer un vélo électrique, j'ai n'importe quoi en liquide, je peux pas.
Ou un fauteuil de designer en liquide, tu ne peux pas.
Ah bon. On va me le refuser.
On va te le refuser. Si tu payes, je sais pas, 3 ou 4 000 euros, ça fait déjà un beau fauteuil en liquide. Oui. Le commerçant peut
très bien
te
dire.
Je
voulais pas mettre cet argent,
enfin. Quand je paye ma baguette avec une carte bancaire, il y a toujours une commission de malade.
Alors, les commissions ont beaucoup diminué pour les commerçants, mais il y en a toujours, effectivement.
C'est quand même pas très rentable.
Mais au final, c'est le consommateur qui le paye. Hein.
Ouais.
Après, le commerçant, attention, il doit aussi, il a des frais qui sont liés à l'utilisation du cash. Hein. Après, les pièces, il faut les ramener à la banque. C'est un risque, il faut avoir un fonds de caisse, c'est toujours un peu compliqué.
Mais alors, pourquoi c'est limité les paiements?
Alors, c'est limité parce que, tout simplement, on veut réduire progressivement le cash pour limiter la fraude. Ça, c'est ce que disent les banques centrales. Oui. C'est pour cette raison, d'ailleurs, je suis sûr que ça ne t'a pas échappé, que le billet de 500 euros, il n'existe plus.
J'en ai jamais eu.
On n'en imprime plus depuis 2018. En réalité, personne l'utilisait vraiment au quotidien. Et il servait surtout à stocker...
Vous avez de la monnaie ?
Et à transférer de l'argent. En fait, pour transférer 1 million d'euros en billet de 500, ça ne pèse que 2 kilos d'œufs. C'est extrêmement pratique pour les trafics.
C'est moi, j'ai jamais
beaucoup
fait ce compte-là.
Beaucoup mieux que le dollar, en fait.
Oui,
parce que le plus gros billet de dollars, c'est 100 dollars. Donc 500 euros, ça nous donnait un avantage compétitif auprès des trafiquants. C'est pas mal.
C'est vraiment dommage, mais ça faut arrêter. Mais est-ce qu'un jour, l'argent liquide va complètement disparaître? Est-ce que c'est possible? Est-ce que certains ont essayé?
Oui, les Suédois ont essayé, ça n'a pas vraiment marché.
Ah bon?
Ils ont fait marche arrière, pour plusieurs raisons. D'abord, comment est-ce que tu fais pour donner de l'argent à un SDF dans la rue? Extrêmement compliqué. Comment est-ce que tu fais pour donner de l'argent à un de tes enfants qui t'a aidé, je sais pas, à nettoyer le jardin?
Tu lui fais un Lydia?
Oh. Oui, aussi.
Moi, j'ai été confronté à ce problème.
Et ben moi, j'ai
très récemment, le monsieur du calendrier qui passe.
Exactement.
Tu sais, les étrennes à fin d'année, là, le pompier,
s'il est passé maintenant, c'est une arnaque, hein, pardon.
Non,
mi-novembre, c'est trop tôt.
Non, après, c'était pas une arnaque. Chez nous, il passe tôt.
Je me suis retrouvé, mais tellement bête à pas avoir de monnaie, j'ai dû gratter.
Tu lui as un maillot.
Après, c'est une super excuse pour les radins. Désolé, il n'y a plus de
liquide. Oui, j'ai plus de monnaie.
Voilà, non, mais,
parfait.
Oh, mais non, mais franchement, vous êtes. Je vous raconte un truc de bonne foi et vous me balancez que c'est radin. Non, j'ai gratté à droite à gauche pour trouver 5 pauvres malheureux euros contre le calendrier. Mais j'avais pas plus, j'avais pas du tout de monnaie.
Bonjour, la
réponse. Tu donnais ta montre.
Regarde Thierry comme il est catastrophé.
Quel radin.
Daniel, si tu veux acheter un cadeau à ton épouse et tu veux pas qu'elle le sache, forcément, s'il n'y a plus d'argent liquide, sur le conjoint, elle verra forcément le montant du cadeau. Ça, c'est compliqué. D'une manière générale, est-ce que tu as envie que ta banque connaisse toutes tes dépenses au quotidien? Tu peux toujours retirer de l'argent liquide et payer ce que tu veux être discret en liquide. Donc, la disparition du cash, ça pose un problème. Et puis, qu'est-ce qui se passe le jour où il y a une gigantesque panne informatique? On meurt tous de faim. Donc, les Suédois se sont rendus compte de tout ça et ils sont revenus en arrière. Ils demandent aux banques de maintenir des distributeurs, notamment dans les zones reculées. Donc, la fin de l'argent liquide, c'est pas pour demain. Rappelle-toi.
On parlera de quoi demain, Stéphane ?
De jus de fruits. Tu sais qu'on en consomme de moins en moins.
Évidemment, c'est très mauvais.
On consomme en moyenne une cuillère à café par personne et par jour. C'est rien.
Ouais, mais je crois que
trop
c'est
sucré.
Mauvais. On verra ça demain. En plus, il y a Robert Sebag demain.
C'est pour ça qu'on en parle demain.
Et c'est très bien, Stéphane Piedrazzi. Très, très, très bien. Dans un instant, on parlera argent quelque part avec le ministère de l'économie qui souhaiterait une loi pour pouvoir collecter des infos sur les contribuables sur Facebook ou sur Instagram.
C'est déjà le cas, non ?
Oui, mais là, il peut faire un faux compte et te demander en ami, par exemple, si t'as un compte privé.
Oh la vache.
Eh oui, donc est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est choquant? On attend vos avis, vos réactions au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.